Bonjour à toutes et à tous, je me présente Florence Bisson, co-directrice artistique et directrice de production pour la 7e édition du Festival de théâtre de l'Université Laval, ou FTUL pour les intimes. Je vous souhaite la bienvenue à notre toute nouvelle série de balados « Insérer théâtre ici ». Cette série de balados est née de l'envie qui anime notre équipe de mieux comprendre les rouages de la machine théâtrale qui nous entoure. On veut avoir accès aux coulisses, voir l'envers du décor, poser des questions qui sont rarement posées aux personnes les mieux placées pour y répondre. On rassemble donc, au fil de notre première saison, des invités phares du milieu théâtral pour apprendre de leurs expériences ou pour connaître leurs avis sur des sujets chauds. Dans notre tout premier épisode, on se penche sur un sujet qui en fait trembler plus d'un, plus d'une. Elles sont un mal nécessaire pour les productions professionnelles, elles sont un art en soi et demandent beaucoup de temps et de patience. Il s'agit ici des fameuses demandes de subvention. C'est notre animatrice et responsable des relations de presse et des médias sociaux favorites, Rose Charrette, qui nous guidera à travers ce monde épineux.
Oui, alors bonjour. Aujourd'hui, on jase avec Marie-Hélène Lalande des demandes de subvention. Elle va venir nous éclairer un peu sur les opportunités qu'on peut avoir lorsque c'est le temps de remplir ces formulaires-là, mais aussi elle va venir répondre à nos questions sur comment la remplir, cette demande de subvention-là, qu'est-ce qu'on a besoin, tous les formulaires qu'on a besoin. Donc, elle va répondre à toutes nos questions sur ce sujet.
Oui, puis en plus, on pense surtout au projet de la relève là, quand on parle de demande de subvention, surtout dans le but de cette balado-là. Alors, sans plus tarder, on se lance!
Ce podcast est réalisé dans le cadre du Festival de théâtre de l'Université Laval. Notre festival est entièrement virtuel cette année et se déroule du 7 au 28 mai prochain. On vous invite à aller consulter notre site web ftul.ca pour voir toutes les propositions audacieuses de nos artistes.
Marie-Hélène est une comédienne promue du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2006. Puis, elle fonde sa compagnie de théâtre Les Écornifleuses en 2007 avec quatre de ses collègues du conservatoire. En plus d'être comédienne, elle touche un peu à tout dans le domaine du théâtre, allant de metteur en scène à co-directrice artistique de sa compagnie. Elle travaille aussi pour la compagnie Nuages en pantalon depuis environ 5 ans. En plus de tout ça, elle partage sa passion en enseignant au cégep de Limoilou au programme d'art et lettres Profil Théâtre, et ce depuis 2011. Bonjour Marie-Hélène, merci de te joindre à moi aujourd'hui pour nous parler des subventions.
Salut! Sujet passionnant!
Oui, oui, bien sûr! Donc, là, on a fait un peu état de toutes tes expériences. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta carrière de tous les jours? C'est quoi les atouts que tu y trouves?
Je pense que le plus grand apport, en fait, c'est de vraiment bien comprendre différents points de vue de la production théâtrale. Quand on est interprète ou concepteur ou artiste, on a un rôle très, très précis à jouer dans le projet. C'est la même chose pour les directeurs de production, les directeurs artistiques, les gestionnaires culturels qui vont administrer les budgets ou qui vont contribuer à chercher du financement. Ils doivent aussi avoir un rôle précis dans la production. Puis c'est tout ce monde ensemble qui va faire en sorte que le projet va aboutir à la hauteur des attentes de l'équipe artistique, puis qui va être diffusé au plus grand nombre, qui va avoir une belle campagne publicitaire, etc. Donc, tous les rôles sont vraiment essentiels. Puis quand on est dans l'équipe de gestion d'un spectacle, bien, ça nous permet, après ça, quand on retourne de l'autre côté, des fois, on fait les deux en même temps, mais des fois, on retourne à un moment donné puis on est comme engagé par une autre compagnie. Ça nous permet de bien comprendre le rythme des choses, les calendriers, les échéances, pourquoi une décision est en suspens, puis là, oups, à un moment donné, go! On peut débloquer un fonds, un montant pour un petit peu plus dans le budget, parce que là, on a vu qu'on a économisé ailleurs. Fait que, tu sais, ça nous permet de vraiment comprendre ça, puis voilà, d'avoir une belle compréhension aussi, je pense, de l'ensemble de notre milieu théâtral.
Fait que dans le fond, avec ça, tu as pu aussi, sûrement, c'est ça, juste toucher à ben, les demandes de subventions et bourses aussi, un peu des deux. Puis t'en as fait, ça s'est mis à combien dans ta carrière?
Les principales demandes de subventions que j'ai eu à faire, moi, c'est en tant que directrice administrative, maintenant directrice générale et co-directrice artistique des Écornifleuses, donc qui est la compagnie que j'ai fondée avec d'autres collègues à ma sortie du conservatoire. On a fait, je dirais, mon Dieu, 10-12 productions. Donc, j'ai fait, à chaque fois, c'est au moins 3 demandes de subvention. Là, fait que ça en fait une petite quantité. J'ai parfois aussi accompagné certains artistes qui en étaient justement à leur première rédaction, qui voulait un petit coup de pouce de relecture. Donc ça m'est arrivé aussi à quelques reprises, de prendre le temps de lire le travail de quelqu'un d'autre, puis de commenter. On s'assoit ensemble 2-3 heures, puis on fait le tour. Je donne des petits compléments d'information, des petites pistes de sujets ou d'éléments à approfondir dans la demande. Les budgets aussi, généralement, c'est quand même un gros morceau, donc ça vaut la peine de prendre le temps de bien le faire. J'ai quand même fait pas mal de rédaction. Puis, je travaille aussi avec une compagnie depuis quelques années qui est soutenue, non pas comme les Écornifleuses au projet, mais qui est soutenue au fonctionnement, là, qui est un peu un mot générique. Mm-hmm. C'est plus tellement ça qui est utilisé aujourd'hui, là. Il y a d'autres vocabulaires, donc soutenue à la mission, par exemple. Et là, dans ce cas-là, ce sont des demandes qui sont faites avec une planification de plusieurs années à venir. Donc, c'est une autre façon de réfléchir des projets parce que, ben, on en fait plusieurs en même temps. Donc, pendant qu'il y en a un, par exemple, qui est en création, en écriture, il peut y en avoir un autre en diffusion, puis un autre en tournée au Québec, au Canada ou même à l'international. Donc, ce sont des enjeux un peu différents aussi. C'est sûr qu'il faut parler de la qualité artistique des projets, mais il y a vraiment tout un travail de planification à faire. C'est un autre type d'écriture, puis de rédaction, puis de préparation de budget, parce que là, c'est sur plusieurs années. Là. Fait que c'est quand même assez colossal faire des demandes de ce type.
OK, c'est ça. Mais ça, c'est une autre sorte de subvention un peu plus complexe. Là, c'est un...
En fait, si on résume, là, les artistes qui veulent faire un projet, que ça soit de la recherche, de la création, de l'écriture, que ça soit une diffusion d'œuvres, une production de spectacle, une tournée, peu importe, il y a 2 choix. Soit qu'on fait une demande comme individu ou comme collectif, qui n'est pas nécessairement une compagnie enregistrée là, auprès du registraire des entreprises du Québec. Donc, si on est un collectif ad hoc, on se réunit le temps d'un projet, on fait notre projet, puis après ça, ben, on va passer à autre chose. Ou si on est un artiste, on va aller plus vers des demandes de bourse. Donc, ça, c'est très, très clair là, sur les sites des différents subventionneurs. Et à ce moment-là, ben, on fait une demande qui est plus comme à un individu. Puis dans notre demande, si on prévoit engager des gens, ben, on va mettre ces ressources-là dans notre budget, on va justifier dans notre texte qu'on a besoin d'acteurs, de concepteurs, etc., pour compléter notre équipe de travail. Mais la demande va être à titre individuel.
Donc, dans le fond, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de nommer toutes les personnes qui font partie de l'équipe de travail. On le fait à notre nom, puis par la suite, on peut dire qu'on a engagé certaines personnes pour travailler avec nous.
Exactement. Dans le cas d'une demande de bourse, on va quand même identifier là, les gens qui vont travailler avec nous, mais ça se fait à titre individuel. Donc, c'est un individu qui reçoit une bourse, par exemple, de 12 000 $ étalée sur une certaine période dont on aura fait mention, évidemment, puis qu'on aura détaillé là, dans la demande de bourse. Mm-hmm. Puis, ben, il faut vraiment que tous les gens qui travaillent pour nous, tous les fournisseurs qu'on a, tous les achats qu'on fait, on garde des factures de ça.
Oui.
Parce que c'est un montant, c'est un revenu imposable. Donc, il faut qu'on ait les dépenses associées à ce projet-là pour justifier que cet argent-là est entré. Il y en a une partie, sans doute, qui aura couvert des frais de subsistance, du temps d'écriture, de développement d'une œuvre, mais la grande majorité des sous vont être... ça dépend des projets, là. Je dis la grande majorité, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais, disons, une portion des revenus de cette bourse vont être alloués à des dépenses de matériel ou de ressources humaines là, qui vont compléter mm-hmm. notre équipe. Donc, c'est super important qu'on ait des factures, sinon on va payer l'impôt de ces gens-là. Là.
Puis on veut pas ça. Puis dans le fond, là, si tu parles bourse, subvention, la différence...
Les subventions, c'est alloué plutôt à un organisme. Sinon, ben, l'autre grand volet des subventions, c'est les subventions au projet. Ça, on n'a pas d'obligation de produire une fois par année, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence de production qui est imposée. Quand ma compagnie est rendue à faire un spectacle, bien là, je vais déposer des demandes de subvention au projet en lien avec ce spectacle-là. Ça se peut que ça fonctionne, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Dans tous les cas, il y a des étapes. Hein? On fait notre demande de subvention. Si ça fonctionne, bien, on a certaines obligations. Il faut réviser notre budget. Il faut s'engager à respecter les ententes collectives pour les artistes, les concepteurs, etc. Et on s'engage aussi à donner la visibilité aux différents subventionneurs mm-hmm. qui vont nous soutenir, par exemple.
Donc là, on vient de faire la différence entre les subventions qu'on peut avoir. Maintenant, en termes de bourse, ça fonctionne comment?
En fait, là, c'est vraiment notre statut d'artiste ou d'organisme qui fait la différence à la base. Donc, une bourse, c'est toujours demandé à titre individuel. J'ai parlé tantôt que du fait que les collectifs pouvaient faire des demandes de bourse. Mm-hmm. Ça, c'est une nouveauté qui est liée assez directement à la pandémie que nous traversons en ce moment même, où nous enregistrons cet entretien. Nous espérons que ce sera chose du passé. Mais en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de revirements de situation et de nouvelles mesures en période de pandémie parce que la diffusion des spectacles devenait vraiment incertaine. Donc, les différents paliers de gouvernement, les conseils des arts, par exemple, mm-hmm. ont proposé des mesures spéciales pour soutenir la création des œuvres, soutenir les étapes de pré-production, soutenir les démarches numériques aussi. Et donc, ces mesures-là, ces mesures-là vont probablement être appelées à disparaître éventuellement quand une certaine normalité sera de retour. Mais pour le moment, ce que j'ai vu, c'est que pour les collectifs, donc qui sont un groupe d'artistes, d'individus qui se regroupent finalement pour créer une œuvre. Mm-hmm. Là, actuellement, entre autres au Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est par les programmes de bourse qu'ils doivent passer pour faire leur demande, tandis que les programmes de subvention existants sont réservés aux organismes qui sont officiellement enregistrés, soit en organisme à but non lucratif, je dirais que c'est le statut le plus commun, en fait, là.
Ouais.
Donc, quand on est officiellement un organisme professionnel en théâtre...
On peut aller vers les subventions.
À ce moment-là, on a un statut qui nous permet de demander dans les programmes de subvention.
OK. Puis, est-ce que ces gens-là auraient la possibilité de faire les bourses aussi ou...
À titre individuel, par exemple, si avec ma compagnie, j'ai un projet, mais que à côté de ce projet-là, ou en complément à ce projet-là, ou en amont, par exemple, si l'idée, c'est que j'écris, moi, une pièce, puis là, j'ai besoin de faire un petit laboratoire avec une équipe pour démarrer mon écriture. Après ça, j'ai besoin de temps pour écrire. Bien, je pourrais faire une demande en tant qu'artiste individuel à ce moment-là.
Okay.
Puis plus tard, quand la pièce sera écrite puis que ma compagnie aura dit « Bon, finalement, c'est pas pire, on va la monter », bien là, on passerait à une demande pour la réalisation du projet qui, là, serait soutenue par mon... C'est-à-dire, on passerait à une demande qui serait rédigée et préparée, finalement, par l'organisme. Donc, ce serait au nom de l'organisme, là, qu'on aurait une subvention dans ce cas-ci.
On le sait, parler d'argent, c'est compliqué. Avant d'aller plus loin, on passe la parole à Élisabeth Plourde, chargée d'enseignement à l'Université Laval et spécialiste de l'histoire du théâtre québécois. Elle nous aide à y voir plus clair en répondant à la question « Le financement du théâtre au Québec, comment ça marche? »
Le développement de la discipline théâtrale au Québec, tout comme son rayonnement et sa pérennité, ont pratiquement toujours requis une participation financière des pouvoirs publics. Il faut se reporter aux années 50 pour voir naître l'idée d'instaurer des institutions publiques de financement des arts au Canada et au Québec. Alors, commençons par la petite histoire. En 1951, la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, lettres et sciences au Canada, qu'on appelle communément la Commission Massé, présentait un rapport qui marquait le début d'une ère nouvelle d'aide gouvernementale aux arts. Par la mise en commun des aspirations et des besoins en matière d'art partout au pays, ce document essentiel fournissait le fondement logique pour la création du Conseil des arts du Canada en 1957 par le premier ministre canadien de l'époque, Lester B. Pearson. Sur le modèle de l'Arts Council de Grande-Bretagne, le CAC, Conseil des arts du Canada, est un organisme indépendant du gouvernement fédéral. C'est donc une société d'État qui a pour mandat de favoriser l'étude et le goût des arts ainsi que la création artistique. À peu près simultanément, à la fin des années 50, le premier ministre du Québec, Jean Lesage, confie à son collègue Georges-Émile Lapalme le mandat de réfléchir à la mise sur pied d'un ministère des Affaires culturelles de la province de Québec. D'ailleurs, la création de ce ministère constitue l'article premier du programme du Parti libéral du Québec en 1960. Ce n'est quand même pas banal et ça en dit long sur l'importance que le parti accordait à la culture à l'époque. Votée en 1961, la loi sur le ministère des Affaires culturelles confère au ministre Lapalme le mandat de favoriser l'épanouissement et le rayonnement de l'identité et du dynamisme culturel du Québec dans le domaine des arts, des lettres et du patrimoine. La loi de 61 impose donc la création du ministère des Affaires culturelles, mais donne aussi naissance au Conseil provincial des arts, une société d'État, tout comme le Conseil des arts du Canada. Donc, le Conseil provincial des arts sera la prélude à ce qui deviendra en 1994 ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le Conseil des arts et des lettres du Québec, le CALQ, alors que le ministère des Affaires culturelles sera devenu l'année précédente le ministère de la Culture et des Communications. Évidemment, les municipalités ne seront pas en reste. Est né en 1956, à l'instigation du maire Jean Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, puis, quelques années plus tard, le service de la culture de la ville de Québec. Donc, au fédéral, le Conseil des arts du Canada, au provincial, le Conseil des arts et des lettres du Québec, et au municipal, le Conseil des arts de Montréal et le service de la culture de la ville de Québec. Bon, ceci étant dit, il ne faut surtout pas confondre commande ministérielle et ingérence politique pour ce qui concerne les subventions aux arts. Parce que les subventions distribuées par les différents bailleurs de fonds ne sont pas décidées par des fonctionnaires, loin de là. Dans sa présentation du projet de loi du 2 mars 1961, le premier ministre Jean Lesage déclarait notamment que, je cite, « Le gouvernement ne crée pas la culture et le gouvernement ne la dirige pas non plus. Il cherche tout simplement à créer le climat qui facilite l'épanouissement des arts. » Fin de la citation. En essence, ça signifie que les comités d'évaluation qui participent à octroyer les subventions en art et culture sont formés par des artistes. C'est ce qu'on appelle les jurys de pairs. Ce sont donc eux, les pairs, les artistes, sur la base de leurs connaissances et de leurs compétences réelles, qui recommandent que tel artiste ou tel organisme soit soutenu. Leurs recommandations se présentent sous forme de listes de priorités. Par la suite, ce sera la taille de l'enveloppe dévolue à chaque programme de financement ou à chaque discipline qui permettra de tracer la ligne entre les heureux qui seront soutenus et ceux qui ne le seront pas. On l'aura compris, les subventions sont capitales pour l'équilibre économique du milieu des arts. Il faut comprendre que subventionner les arts ne se réduit pas qu'à offrir un soutien de création aux artistes. Ça implique aussi de réduire la charge économique qui repose sur les épaules des spectateurs. L'Observatoire de la culture et des communications, lié à l'Institut de la statistique du Québec, calcule que le coût moyen d'un billet de spectacle est d'environ 30 $. Mais derrière ce montant, il y a des subventions qui rendent le montant du billet accessible pour le spectateur. Sans subvention, le spectateur, qui paye actuellement 30 $, aurait à payer entre 75 et 150 $ pour un seul billet de théâtre. Et cela ne tient évidemment pas compte des fluctuations du marché qui sont associées à la valeur symbolique de l'artiste, mais simplement, ça tient à ce que coûte réellement à produire un spectacle de théâtre. Les subventions sont donc nécessaires. Et tout ça, c'est tout bénéfice pour le consommateur de culture.
Maintenant, là, ce qu'on se demandait, c'est quand qu'on prend la décision de faire une demande de subvention ou une demande de bourse?
Je dirais que la première question qu'on doit se poser, c'est quels sont mes besoins ou quels sont nos besoins? Il faut identifier ça. C'est-à-dire que si mon organisme ou mon collectif a fait un dépôt de projet dans le cadre d'un appel à projet, par exemple ici à Québec, à Premier Acte. Donc, on a déposé un projet, ça ne me donne rien là, tout de suite là, de faire une demande de subvention tant que je ne sais pas si mon projet va être sélectionné et programmé à la saison prochaine. Dans ce cas-là, c'est préférable d'attendre d'avoir une date de diffusion pour faire une demande qui serait liée à la diffusion de l'œuvre. Si par contre, je n'ai pas l'intention de répondre à un appel à projet et donc de proposer mon spectacle tout de suite parce que je considère que j'ai besoin de différentes étapes de création, bien là, je pourrais faire une demande qui est plutôt axée sur les étapes de création de mon œuvre. Donc, je peux faire des laboratoires avec ou sans présentation à la fin devant public. Hein. Des fois, on ouvre les portes de la salle de répétition puis on veut des commentaires. Des fois, non. Ça dépend vraiment de nos besoins, de nos envies puis de la forme que prend notre travail de recherche. Mais dans le cas d'une étape de recherche et création, si mon besoin, c'est avoir les moyens de me louer un espace de travail pour répéter, avoir les moyens d'engager des artistes, d'engager un metteur en scène, d'engager une autrice, des concepteurs, peu importe, selon ce que j'ai envie de tester en laboratoire ou d'élaborer, bien, je prépare ma demande en lien avec cette étape-là du projet. Donc ça existe. Hein, on peut faire des demandes de subventions ou de bourses qui sont en lien avec la recherche et la création ou l'exploration. Là. Chacun a aussi son terme. mais l'idée, donc, de ne pas aboutir à une diffusion, ça se peut aussi. Okay. Donc, ça peut être une première étape.
Est-ce que tu dirais que c'est moins commun des subventions pour un processus de recherche, de création?
Non, je pense pas que c'est moins commun. Il y a de l'argent là, pour développer des œuvres. Tu sais, les conseils des arts savent là, qu'un spectacle, ça se crée pas tout le temps, tout, tu sais, dans l'urgence, en 2 mois, là, tu sais. Des fois oui, mais des fois non, tu sais. Puis quand on est aussi une compagnie qui gère elle-même son projet, ben c'est normal qu'il y ait différentes étapes, tu sais. Puis oui. Des fois, ça prend une étape pour avoir un texte, pour avoir une captation d'un extrait avec une proposition d'esthétique de mise en scène, par exemple. Puis c'est avec ça qu'on va réussir à aller courtiser un diffuseur, ouais. finalement, puis avoir une place dans une programmation. Puis c'est à ce moment-là qu'on sera rendu à faire une demande pour soutenir la production du spectacle, puis la diffusion aussi.
OK. C'est quand même important d'avoir déjà en tête quand même une bonne base là, du projet avant de faire des demandes de subvention.
En fait, c'est non seulement important, mais c'est vraiment essentiel. Il faut être capable de nommer le projet, parce que dans toute demande, tu sais, on demande des sous pour créer, hein? Ces sous-là, c'est des sous qui... c'est de l'argent public, donc ouais. Non seulement on est nombreux à être dans le même tas de demandes qui arrivent sur le bureau d'un jury, mais... fait qu'il faut se démarquer de cette façon-là, mais il faut aussi être capable de nommer précisément ce qu'on a envie de faire. C'est sûr qu'on peut pas, quand on part d'une idée seulement, par exemple, là, ou d'un sujet qu'on veut fouiller, ça se peut là, qu'on sache pas exactement à quoi va ressembler l'œuvre finale. On est en recherche, on veut chercher, mais il faut qu'on sache... Qu'est-ce que je cherche?
Ouais.
C'est quoi l'objectif? Faut qu'on soit capable de nommer le plus possible les différents éléments de notre spectacle, de dire ce qu'on veut tester en salle de répétition. Si ma proposition dans l'espace va être déterminée par la lumière, par exemple, bien, ça justifie qu'à mon laboratoire, j'engage une conceptrice d'éclairage ou un concepteur d'éclairage, puis à ce moment-là, je vais travailler avec eux autres pour, avec elle ou lui, pour développer une proposition de mise en espace par la lumière.
Ouais.
Bon, bien, ça se justifie à l'écrit. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que je sais exactement comment je vais travailler avec cette lumière-là, mais ça veut dire que c'est ça, l'objectif. Mm-hmm. Donc, d'être capable de nommer les objectifs, d'être capable de développer sur en quoi ma proposition se démarque, quelle est la qualité artistique particulière de mon spectacle ou de mon étape de travail. Ça, c'est vraiment pertinent de bien, bien, bien clairement nommer ça dans notre demande.
Ouais. Quelque chose de structuré, là.
Ouais.
Mis à part là, avoir des idées pour un projet et une bonne structure de ce qu'on veut faire, ça serait quoi les documents à avoir en main pour faciliter la rédaction de la demande en tant que telle?
Généralement, là, ça, ce qui est formidable, c'est que si je fais, par exemple, une demande de subvention à la Ville de Québec, la Ville a son canevas avec ses documents, à fournir, là, donc avec une liste de documents à fournir. En général, il y a toujours un formulaire à remplir pour permettre l'identification de l'organisme ou de l'artiste ou du collectif, permettre d'avoir un petit résumé du projet en quelques lignes, un titre du projet, les références de la personne contact dans mm-hmm. ce cas-là, etc. Donc, un petit formulaire. À ça doit être jointe la description du projet. C'est le cœur de notre demande. Donc, c'est la description artistique de notre projet. Et généralement, il y a toujours un nombre maximum de mots que nous pouvons utiliser pour vendre notre salade.
OK.
Et c'est pas souvent beaucoup de mots. Parce que comme il y a beaucoup de projets qui sont déposés en même temps, il faut qu'on donne une chance aussi aux membres des jurys, tu sais, pour être capable de bien lire puis de bien saisir l'essence des projets rapidement. Fait que ça sert à rien de composer des affaires de 8 pages, là, ça sera pas possible. Puis, dépendamment de comment, de la plateforme utilisée aussi, là, de la forme de la demande, ou même encore plus précisément, du médium utilisé pour transmettre la demande, des fois, on passe par une plateforme en ligne qui bloque carrément après un certain nombre de caractères. Donc, à la fin, c'est un peu des blagues, là. Tu sais, de « bon, ben je vais enlever un espace là, je vais changer tel mot pour un autre parce qu'il y a trois lettres de moins, là. » Des fois, on arrive à ce genre de jeu très, très, très serré. Donc, il faut apprendre, et ça, c'est très difficile, à être extrêmement précis, concis et racoleur, je dirais, dans nos dépôts de projets. Donc, il faut trouver les bons mots, exprimer clairement nos idées, et il faut résister aussi à l'envie, des fois, d'en mettre un petit peu plus que le client en demande, à tomber dans un style littéraire, un peu lyrique, pour vendre notre salade. Il faut que notre passion puis notre urgence de monter cette œuvre-là transparaisse dans notre dossier, mais il faut que ce soit quand même clair et concret. Il ne faut pas que ce soit seulement des idées un peu floues dans les airs. Il faut essayer de rendre ça le plus concret possible, malgré la dimension artistique qui, des fois, nous donne envie de tomber un peu plus oui, dans un style. En général, si le projet est lié à une diffusion, donc on est programmé dans une saison, ça nous prend soit un contrat ou une lettre d'engagement de notre diffuseur.
Okay.
Des fois, une lettre d'appui, c'est toujours intéressant. Hein? Si vous faites... un projet dans un cadre particulier, puis que le, je sais pas, là, il y a une autre compagnie qui vous connaît, ou une metteuse en scène, par exemple, d'expérience qui a suivi votre démarche, ou des fois, on a un organisme qui peut nous parrainer aussi dans nos différentes étapes, là. C'est toujours bien, hein, d'avoir une petite lettre d'appui de quelqu'un qui a peut-être déjà, oui, une certaine reconnaissance dans le milieu, et qui vient soutenir notre démarche, ben pour un membre du jury, par exemple, qui ne connaît pas précisément qui on est comme artiste émergent, mais qui voit que quelqu'un d'autre s'intéresse à notre démarche, ça peut donner un petit peu de crédibilité, là, le temps qu'on fasse nos preuves, puis qu'on puisse déployer, finalement, un certain nombre de projets, puis être reconnu, là, ça peut être intéressant. Donc, des lettres de soutien comme ça... pour les organismes, souvent, on va demander, par exemple, les états financiers de l'année dernière. Des fois, on va demander la liste des membres du conseil d'administration de l'organisme. Souvent, on va demander des CV ou des courtes biographies des artistes impliqués dans le spectacle. Et toujours, évidemment, il y a un budget. J'ai sauté cette étape, là, mais il y a toujours un budget à joindre avec des prévisions.
Il faut établir le budget avant.
Ouais, il faut que le budget soit bien réfléchi et bien balancé. Hein? Évidemment, si on demande une subvention, c'est pour qu'on arrive à zéro, pas pour qu'on fasse un gros surplus, ni pour qu'on ait un gros déficit à la fin. Donc, il faut que la demande qu'on fasse soit à la hauteur des dépenses qu'on prévoit faire aussi. Sinon, des fois aussi, dans les documents, on peut fournir des extraits audiovisuels, des extraits de répétition, la bande-annonce d'un autre spectacle qu'on a fait, ou l'œuvre intégrale de notre dernier... l'enregistrement intégral, pardon, de notre dernier spectacle. Des photos d'inspiration qu'une conceptrice aurait commencé à amasser pour justifier... certaines dépenses très particulières de costumes, par exemple. Ça, il faut absolument qu'on travaille avec une couturière. Ça va coûter plus cher que si on fait juste acheter des affaires chez Simons, là, tu sais. Fait que tout ce qui peut justifier ou apporter un petit plus dans le regard d'un juge, là, c'est intéressant de le mettre. Ouais.
OK. Puis il n'y a pas de limite, on n'aurait pas de limite.
Ça dépend. Il faut toujours regarder.
Ça va être mentionné.
Souvent, dans le formulaire du budget, il y a différents onglets. Donc, il y a le budget comme tel, mais il y a aussi des données de fréquentation du spectacle, par exemple, à prévoir. Donc, combien de spectateurs peuvent entrer dans la salle? Combien, moi, je prévois qu'il y en aura? Quel sera le prix moyen du billet? Donc, il y a des données en lien avec la diffusion, des fois comme ça, qu'il faut prévoir. Puis souvent, il y a un onglet où on va suggérer le matériel d'appui. C'est souvent le terme utilisé. Donc, des fois, c'est le texte, hein? Un synopsis de l'œuvre, le texte intégral ou un extrait qui présente bien en quelques pages le spectacle qu'on veut travailler, des photos, des extraits vidéo, bon, tout ça, là, c'est souvent résumé dans un document, dans un formulaire, puis on met ce qu'on a à mettre en annexe.
Dans le fond, avant de se lancer dans le processus d'une demande de subvention, il faut d'abord et avant tout se questionner pour connaître quels sont nos réels besoins. Puis ça va nous permettre de bien structurer le tout et d'arriver préparé lorsqu'on va faire notre demande.
Exactement. Tu sais, une demande de subvention, là, on ne peut pas vraiment faire ça la veille à 2 heures du matin. Là.
Non, c'est ça.
Des fois, on la finit la veille à 2 heures du
oui.
matin. Mais c'est quelque chose qu'on doit préparer. Il y a toujours aussi un échéancier là, quelque part à joindre oui. hein, dans notre demande. Donc, il faut qu'on structure le projet. Il faut savoir où on s'en va. Si on ne sait pas où on s'en va, les membres du jury vont le sentir.
Oui.
Puis ils vont dire, « Ah, ben, on va les laisser travailler un peu. » Puis quand elles ou ils auront appris à se structurer puis à prévoir leurs besoins, ben là, on les aidera. Mais pour le moment, ben c'est pas sérieux, là. Tu sais, il faut qu'on démontre aussi la qualité professionnelle du travail qu'on s'apprête à accomplir.
Oui. Bien, justement, en continuant là, sur cette idée-là, est-ce que tu sais, toi, un peu, c'est quoi qui fait qu'une demande va être acceptée puis une demande va être refusée?
D'abord, très, très techniquement, c'est sûr que si on n'a pas joint tous les documents à joindre,
oui.
on se tire un peu dans le pied, là. Ça c'est vraiment
c'est
dommage
évident.
D'apprendre que notre dossier n'est pas retenu parce qu'on a oublié d'envoyer un document. Fait contre-vérifier plusieurs fois si tout est bien joint. Souvent, il y a une petite liste qu'on peut cocher même.
Okay.
Faites-le pour vrai. Assurez-vous que s'il y a une signature à mettre quelque part, elle est là. Ça, c'est vraiment important. Malheureusement, on ne peut pas, là... je ne pense pas qu'il y a de réponse super précise à ta question. C'est-à-dire que les demandes sont évaluées par un jury, en général composé d'un jury de pairs, donc des membres de notre milieu, et des fonctionnaires qui sont là pour le côté plus administratif, puis
ouais.
qui vont finir par octroyer un montant, là, finalement.
Okay.
Donc, c'est pour ça que c'est important d'être super bien structuré, bien planifié, et de ne jamais oublier que les gens qui vont lire notre demande, là, ils ne nous ont jamais entendu en parler de notre projet. C'est la première fois, c'est notre seule carte de visite. Donc, quand je parlais tantôt de clarté, d'être efficace dans ce qu'on met de l'avant, de faire saliver les juges, tu sais, de trouver qu'est-ce qui est vraiment particulier dans mon projet, qu'est-ce qui est plus audacieux que dans ce qui se fait d'habitude, ou qu'est-ce qui pourrait leur donner vraiment envie d'en savoir plus. C'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Ensuite, ben les juges, en général, vont soit attribuer des notes aux différents dossiers ou les placer dans un ordre. Hein. C'est quelque chose, là, faire partie d'un jury de pairs, là, c'est pas simple, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à considérer.
Mm-hmm.
Fait que ce qui fait qu'on a accès ou pas aux sous, des fois, ça se joue sur un détail, mais il y avait tellement d'autres bons projets dans le même bassin, dans le même dépôt que nous, qu'on est passé sous la barre. Puis ça veut pas dire que notre projet, il est pas bon, c'est juste qu'il y en avait d'autres qui étaient meilleurs, tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux.
Ouais.
Et même, ne pas hésiter à faire lire notre demande par quelqu'un de l'extérieur du projet qui pourra s'assurer que toutes les idées sont claires, ou nous indiquer des moments où on l'a perdu, là, tu sais, où on est trop dans nos têtes, puis pas assez concret, justement, qui pourra peut-être vérifier aussi si l'équilibre budgétaire a l'air pas si mal, qui pourra nous, tu sais, nous donner des commentaires pour nous aider à améliorer le projet avec le point de vue de quelqu'un qui ne le connaît pas, justement. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment... c'est simple, là, comme truc, mais ça vaut la peine. Des fois, ça peut vraiment changer beaucoup sur la dernière petite étape de finalité, de perfectionnement là, de notre projet. Mm-hmm. Il y a des critères d'évaluation, hein. Ça, c'est...
Est-ce que ça, c'est mentionné?
C'est mentionné. Bon. Donc, allez lire ça. Tu sais, quand vous dites « Parfait, je commence à regarder... » où je vais déposer des demandes de subvention, quel programme, quelle mesure particulière peut m'être utile là, dans ce projet-là en particulier, selon mes besoins. Il faut prendre le temps de regarder. Il y a toujours un petit onglet « admissibilité », donc s'assurer que si je fais une demande de subvention, mais que je n'ai pas bien regardé, puis je fais la demande comme artiste seule, finalement, je ne suis pas admissible, je vais avoir travaillé dans le beurre, tu sais. Fait que tous les critères d'admissibilité sont là. Des fois, pour certains programmes, il faut qu'on ait déjà été soutenu par un subventionneur pour pouvoir demander une deuxième fois ou dans un programme en particulier. Donc, il faut vraiment bien regarder les critères d'admissibilité. Il y a des enjeux de date de dépôt aussi là, qui font partie de ça.
Bien oui, en fait, justement, j'aurais une question là-dessus. Est-ce que les subventions qui sont offertes, ils viennent par vague ou bien ils viennent seulement une fois par année ou c'est tout le temps à la même date qu'on doit faire notre demande?
C'est très, très variable. Donc, il y a des fois des dates de dépôt très précises. Puis il y a des fois, c'est par exemple 3 mois avant le début du projet.
OK.
Donc, ça varie, c'est vraiment propre à chaque mesure, à chaque projet. Alors, il faut vraiment prendre le temps de l'éplucher. Faites-vous un petit tableau, prenez-vous des notes. Y a-t-il une date? Non. Parfait. Donc, c'est la note générale qui s'applique dans ce cas-ci, c'est-à-dire 3 mois avant le dépôt du projet. Mm-hmm. Bon, parfait. Ça, c'est bon. Ça veut dire que je peux prévoir à l'avance, justement, là, les moments où on doit déposer. Ça, c'est vraiment une bonne stratégie. Donc, oui, effectivement, ça dépend vraiment des programmes. On a parlé des critères d'admissibilité qui ne sont pas négligeables, là, qu'il faut bien éplucher. Ensuite, on a toujours accès aux critères d'évaluation. Ça aussi, ça change selon le subventionneur. En général, dites-vous qu'une grande portion du pointage va à la qualité artistique du projet. Donc, c'est pour ça là, que j'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut bien nommer notre projet, bien le définir, bien expliquer quelle est notre vision artistique. Si on décide de par exemple, de prendre un texte classique puis de le rebrasser, bien, il faut bien insister sur comment on va questionner cette œuvre-là. Pourquoi? Quelle est la pertinence de remonter ce texte-là aujourd'hui? Si je veux le réécrire, bien, quel angle je vais prendre pour attaquer ce mythe-là, par exemple? Donc, quel est mon dialogue avec l'œuvre originale? Comment je vais exprimer le nouveau message que j'ai envie de passer aujourd'hui sur scène, tu sais. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien articuler tout ça. À essayer de parler d'une démarche aussi, je pense que ça, c'est très important. Donc, on sente que c'est pas juste « je fais un spectacle pour faire un spectacle », mais j'ai vraiment une démarche artistique derrière la tête, hein. Ça, c'est important. Quand c'est un organisme qui demande puis qui en est à son deuxième, troisième, quatrième spectacle, quel est le lien avec les précédents? En quoi ça s'inscrit dans ma démarche artistique de compagnie? Là, ça, c'est important aussi. Ou d'artiste, hein, parce qu'il y a des artistes qui vont faire plusieurs demandes, plusieurs projets à titre individuel. Donc, c'est la même chose. comment ma démarche artistique va s'approfondir à la rencontre de cette œuvre-là. Ça, c'est vraiment important parce que, ben, comme je disais encore tantôt, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus dans le bassin de demande de subvention. Ouais. Donc, il faut qu'on réussisse à se démarquer. Ça, c'est vraiment c'est important. Donc, de nommer la pertinence de notre projet puis la qualité artistique. Souvent, il y a une bonne portion qui va aller sur l'impact de notre projet.
Okay.
Quel impact il aura?
Le rayonnement.
Le rayonnement. Donc, ça peut toucher très techniquement. Ben là, j'ai signé déjà dans 3 salles différentes. Fait que l'impact, c'est que mon spectacle va rencontrer 3 publics de 3 villes différentes, ou bien je vais faire 20 représentations, je vais toucher tant de spectateurs. Ça, c'est donc de quantifier le nombre de spectateurs touchés par mon initiative. Ça, c'est une façon d'avoir un impact. Il y a certains projets aussi qui vont avoir un impact parce qu'il y a beaucoup de médiation culturelle à même le projet. Donc, ma démarche s'inscrit dans une série de rencontres avec tel type de citoyens, citoyennes qui vont m'aider à alimenter ma démarche, mon écriture, qui vont mener à une diffusion, une création puis une diffusion d'une œuvre. Donc, ça touche beaucoup de gens dans la chaîne culturelle. Où ça va amener au théâtre des gens qui ne sont pas habitués d'y aller, parce que je cible une clientèle qui est très, très, très particulière. Ça, c'est toutes des façons d'avoir un impact. Des fois, ça peut avoir un impact aussi sur le rayonnement de ma région, de ma ville, dans le milieu théâtral québécois. Ça peut avoir un impact sur ma discipline. Hein? Si, par exemple... mon projet implique est multidisciplinaire, mais là, il y a une espèce d'expertise de l'extérieur qui va venir s'intégrer à mon projet. Ben, comment ça peut me permettre de renouveler ma discipline théâtrale, de l'amener plus loin? Ça, c'est vraiment toutes sortes de façons de nommer l'impact, là.
Mm-hmm.
Puis c'est des points quand même importants, là, évidemment. C'est oui. sûr que si on fait un spectacle dans un sous-sol devant 12 personnes, ça se peut que les subventionneurs fassent « Ouais, mais là, à côté, on a un projet qui est tout aussi intéressant, mais qui va toucher 1200 spectateurs. » C'est sûr que, très froidement, la décision n'est pas si difficile à prendre.
Ouais.
Donc, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Ça, c'est important. Puis souvent, le troisième volet qui est évalué, c'est la qualité de la gestion du projet.
Okay.
Donc, on a parlé tantôt de planification d'échéancier. Donc, est-ce que c'est réaliste? Mm-hmm. Est-ce que le budget tient la route? Est-ce qu'il est équilibré? Et est-ce qu'il y a différentes sources de revenus? Hein, ça, c'est important.
Oui.
Quand on fait un budget, on ne peut pas juste demander des subventions. Merci, bonsoir, je fais mon spectacle, c'est terminé. Dans une démarche de recherche et création, c'est plus propice à ça, ceci dit, mais dans une démarche où il y a des revenus de billetterie parce qu'on diffuse une œuvre, bien, il faut tenir compte de ces revenus-là. Puis toujours, si on est capable d'apporter une autre source de revenus en tant qu'organisme, en allant chercher, je dis en tant qu'organisme, là, mais en tant qu'artiste et collectif aussi, là, aller chercher... un partenariat auprès aller chercher du financement privé auprès d'un partenaire qui va accepter, par exemple, de nous fournir du matériel, qui va faire un échange de services, ça a une valeur.
Comme une activité de financement, par exemple?
Ben oui, une activité de financement qu'on fait pour venir ajouter un petit peu puis varier les sources de revenus.
Mm-hmm.
Ça, c'est toujours bien vu et bienvenu pour l'ensemble du milieu.
OK. Fait qu'on garde toujours en tête que c'est pas les subventions notre principal revenu, puis qu'on doit quand même aller en chercher ailleurs. Je ferai maintenant un petit saut en arrière, puis je reviendrai sur le sujet de, en fait, quoi faire lorsqu'on est accepté pour une subvention. Est-ce qu'on a des ententes à respecter ou certaines marches à suivre? Puis, est-ce que notre projet peut changer après avoir reçu la somme d'argent.
Donc, c'est sûr que... je prends un exemple très, très précis, là. Mm-hmm. Si, par exemple, je reçois un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec,
oui.
Moi, j'ai présenté un projet, on m'a octroyé finalement une somme pour ce projet-là. Évidemment, on me demande d'accepter les sous en m'engageant à différentes obligations pour valoriser aussi l'apport du Conseil des arts et des lettres du Québec, le nommer, le souligner sur mes outils promotionnels du spectacle. Puis, ben, je m'engage à utiliser les sous qu'on me donne de façon responsable, à valoriser le travail des artistes de l'équipe, à respecter les ententes collectives, à payer les droits d'auteur si je dois en payer. Donc, tout ça fait partie des engagements qu'on a dans l'utilisation des sommes. Et je m'engage à faire une reddition de compte. C'est sûr que si, par exemple, j'ai 10 000 $ puis qu'au final, j'ai fini mon projet, puis là, j'ai payé tout le monde, puis finalement, ça a juste coûté 8 000. Je peux pas garder le 2 000 de plus dans mes poches. Il va falloir que dans la reddition de compte, le conseil pourrait me dire... je vais reprendre ce 2000-là, tu ne l'as pas utilisé. Je pense que c'est rare que ça arrive, là.
Ouais.
En général, on court plus après les derniers dollars qui sont manquants. Mais c'est un exemple, donc, il faut qu'on prouve, il faut qu'on explique dans un budget final comment on a utilisé les sommes. Puis, au milieu, donc au moment où on a la bonne nouvelle, quand on ouvre la lettre qui dit « Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre projet sera soutenu », on a donc une lettre d'entente souvent à signer, une espèce d'engagement. Puis, on a un budget révisé à faire parce que comme il passe souvent plusieurs mois entre le dépôt de notre demande de subvention et le moment où on reçoit les sous, le projet, des fois, a déjà évolué. Puis des fois, on a aussi reçu les autres réponses des autres subventionneurs. Donc, il faut toujours garder notre budget à jour. Ça se peut que ça change beaucoup. C'est normal. Tu sais, on se fait un budget, c'est une prévision budgétaire, hein? Quand là, les montants commencent à se confirmer, là, on peut prendre des décisions puis aller de l'avant. Peut-être que dans notre idéal, on voulait avoir 12 artistes sur scène, mais qu'avec l'argent qu'on a, ça ne sera pas possible. Puis qu'il faut revoir notre proposition avec un peu moins d'artistes sur scène, ou il faut baisser vraiment beaucoup notre budget de construction du décor parce que, on avait prévu 8000 piastres, puis finalement, concrètement, on va en avoir 2000. Fait qu'il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est pas rare qu'on ait à se revirer de bord. Puis des fois, dans notre budget, on a prévu à recevoir un montant d'un autre subventionneur, puis la réponse va être négative. Fait que c'est pas rare, ça non plus. Donc, il faut être capable de toujours garder notre budget à jour. Puis c'est pour ça que quand on se fait octroyer une subvention, on nous demande de renvoyer un budget révisé pour confirmer où est-ce qu'on en est. Puis là, suite à ça, on fait notre projet. Puis à la fin, complètement, il y a une troisième version du budget, donc le budget final qui est envoyé.
Puis ça, est-ce que c'est que des fois, vous pouvez recevoir comme un ajustement de subvention selon les budgets, ou c'est juste qu'ils regardent un peu juste pour...
Je pense qu'il suffit vraiment au premier budget qu'on a déposé, là, un ajustement de subvention. Faudrait être bien chanceux pour qu'il reste un peu de sous dans une enveloppe budgétaire qui n'a pas été distribuée, puis que finalement, on nous en donne plus. Et ce qu'il faut garder en tête, je pense, c'est que notre projet, évidemment, hein, c'est une création, ça évolue, ça peut changer. Si jamais il y a un changement majeur qui s'opère en cours de route, informez votre agent de programme au Conseil des arts ou à la Ville de Québec. Bref, il faut informer notre subventionneur.
Okay.
Commencez par un appel, puis si jamais on vous demande de mettre ça par écrit, vous le faites, là. C'est pas la grosse affaire, mais au moins, il y a une trace. qui justifie que vous avez informé le subventionneur de vos des différents changements. Si finalement vous aviez prévu des droits d'auteur, puis c'est une pièce du répertoire international, puis là l'auteur demeure ailleurs, puis finalement ça a pris beaucoup de mois avant que vous ayez une réponse finale, puis hey boy, ça va coûter deux fois plus cher que vous pensiez. Mm-hmm. Ben c'est une dépense qui est doublée dans le budget. Des fois, ça vaut la peine de ventiler les dépenses ou les revenus qui sont très, très différents du budget prévisionnel. Donc, on met des petites notes au budget, puis on dit, bon, ben là, dans les revenus de billetterie, on avait prévu telle chose. Finalement, on a eu vraiment moins de revenus de billetterie que prévu. Pourtant, il y avait autant de monde que ce qu'on avait prévu, sauf que le prix moyen du billet, parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'étudiants qui bénéficient de rabais des fois sur l'achat des billets, ça a fait chuter le prix moyen du billet. Donc, on a moins de revenus de billetterie, mais on a touché autant de monde, puis on a renouvelé peut-être ou créé un nouveau public pour le théâtre parce que c'est des étudiants, tu sais. Fait qu'il y a toujours moyen d'expliquer les différents scénarios.
Là, tu parlais de recevoir différentes sommes. Donc, on ne reçoit pas l'argent d'un seul coup. Ça va être, dans le fond, plusieurs versements qu'on va recevoir de la subvention.
Ça dépend aussi des différents paliers de gouvernement. Par exemple, à la Ville de Québec, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on accepte la subvention, on va nous donner 80 % je crois, de mémoire, du montant total qui nous est octroyé. Donc, ça nous donne de la liquidité pour engager des dépenses. Puis le dernier 20 % va nous être donné au moment où on a remis le rapport final du projet. C'est une façon, donc, de garder un peu le contrôle sur l'utilisation de ces sommes-là. Puis il y a d'autres places où ils nous donnent le montant tout d'un coup. Ça dépend vraiment des subventionneurs, des programmes, etc.
OK. Mais c'est vraiment bon à savoir, là, dans le fond, que tout dépend du subventionneur. La subvention ou la bourse qu'on reçoit peut être séparée en plusieurs versements. Là, pour terminer notre rencontre, je te demanderais, est-ce que tu connais des ressources qui aident les artistes de la relève ou les jeunes compagnies dans leur processus de demande de subvention?
C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des organismes comme ça qui étaient dédiés au soutien administratif, à la gestion des projets ici à Québec. Je pense que, bon, il y a quand même le Conseil de la culture à Québec, là, qui pourrait probablement fournir un peu de soutien ou orienter vers des organismes intéressés à soutenir. Hein. Des fois, si vous démarrez un collectif puis que vous dites « me semble que ma démarche ressemble à telle compagnie dont je suis le travail depuis X années », ben peut-être que je peux oser appeler puis essayer de parler à quelqu'un de cette compagnie-là qui pourrait me donner un petit coup de pouce. Tu sais, ça coûte rien. Moi, j'ai fait ça au départ, là, des fois, de prévoir un petit rendez-vous téléphonique. Là, j'avais ma liste de questions, puis je disais « OK, je te prends 15 minutes. » OK, puis là, je posais mes questions, puis ça m'éclairait beaucoup. Ça m'a évité de faire certaines erreurs. Hein? C'est normal, on commence, là. Fait que des fois, un petit coup de fil, ça peut faire vraiment plaisir à des organismes un petit peu plus établis. Donc, de répondre à vos questions. Conseil de la culture, peut-être. Sinon, ben Première Ovation, doit avoir certains outils, là, disponibles en ligne ou un numéro de référence aussi. C'est sûr que Première Ovation, c'est dans son mandat de soutenir la relève, donc c'est vraiment une bonne ressource. En fait, je pense qu'il faut, il faut surtout se dire que les réponses ne vont pas nous tomber du ciel.
Non.
Il faut éplucher les sites des différents paliers de gouvernement qui octroient des subventions.
Oui.
À la Ville de Québec, il y a l'entente de développement culturel de la Ville de Québec, mais probablement que quand on commence, le premier réflexe, de toute façon, c'est Première Ovation.
Oui.
Donc, pour la relève, il y a vraiment des super programmes là. Il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec, il y a le Conseil des arts du Canada. En général, ils ont tous des capsules qui présentent les projets, hein, maintenant, des capsules vidéo qui nous permettent d'avoir un premier coup d'œil. Puis les sites Internet fournissent beaucoup, beaucoup d'informations. Fait que prenez le temps de lire tout ça. Puis, à la limite, de vous faire une série de questions, une liste de questions que là, vous adressez peut-être plus précisément à quelqu'un après. Mais il faut comme mettre les mains dans la pâte et
oser
brasser avec.
Être patient aussi.
Parce que sinon, on risque de faire des erreurs, de passer à côté de certains programmes qui auraient été plus appropriés pour le projet qu'on avait. Puis il y a des numéros de téléphone qui sont un petit peu cachés, là, des fois. Mais ça peut valoir la peine d'essayer d'envoyer un courriel ou d'entrer en contact avec un agent de programme qui va vraiment pouvoir aussi répondre à nos questions. Des fois, on pense que notre projet s'inscrit dans tel programme, puis finalement, ben, il y en a un autre qui est un peu... Il est plus nouveau, il est moins populaire, il y a moins de demandes en général. Peut-être que tu aurais plus de chance dans celui-là. Tu sais, ce genre de petit indice peut, des fois, être très, très précieux puis changer... Le poids de notre projet dans un lot de demandes de subventions, là. Donc, ça peut être intéressant. Donc, oui, il faut vraiment être curieux puis se mettre en mode « OK, on plonge. Aujourd'hui, on épluche les programmes. On se fait un calendrier pour savoir quand déposer puis tout ça. » Ça peut nous faire sauver beaucoup de temps et nous faire gagner des sous.
Oui.
Petite parenthèse aussi, souvent quand on fait des dépôts de projets, on compte pas nécessairement les heures qu'on met comme artiste ou comme gestionnaire d'un collectif ou d'une compagnie, mais notez-les parce que ce temps-là, il est tout à fait admissible dans les demandes de subvention, dans les frais administratifs, là, vous pouvez mettre... les frais de la... les honoraires, un cachet, tu sais, souvent c'est plus les honoraires pour la direction administrative du projet, la direction de production, donc qui sont des êtres humains qui mettent du temps, finalement, qui investissent du temps pour rédiger ces demandes de subvention-là, tout ça. Essayez d'évaluer combien d'heures on va mettre chacun ou chacune. Ça représente donc tel montant. On peut le mettre là, vraiment dans les frais. Après, ben, selon les montants qu'on obtiendra, on verra à quelle hauteur on est capable de se payer, mais c'est important de le mettre parce que ce sont des frais tout à fait justifiés. Là. Si c'est pas vous qui le faites, je veux dire, ça se fera juste pas. Oui. Donc, c'est des heures qui devraient être rémunérées aussi au final.
Bien, merci. Ça répond bien à toutes nos questions. Avant que tu nous quittes, est-ce que tu pourrais nous dire à quel endroit on pourrait te voir là, prochainement?
Au moment où on se parle, où on enregistre l'émission, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait confirmées. Ce que je peux vous dire, c'est que je vivrai mon baptême du théâtre jeunesse en tant qu'interprète. Parce que je fais partie de Boîte d'allumettes, qui est un parcours qui sera présenté au mois de mai, justement, là, à la pendant les trois dernières fins de semaine du mois de mai, à la caserne d'Alousie. Donc, un parcours sur le thème du feu de la caserne, mise en scène par Olivier Normand. Donc, j'ai très hâte. Puis sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller prendre des nouvelles en balado aussi des écornifleuses qui ont complété une étape importante de la création de Marie Stuart, notre projet que nous allons incessamment diffuser. Prochainement là, au Théâtre Périscope. Puis sur le site du Périscope et sur le site des Écornifleuses, vous pourrez être dirigé vers un balado de contenu qu'on offre en accompagnement du spectacle. Pour parler du contexte historique absolument passionnant de la reine Marie-Stuart et de sa cousine Élisabeth Ière d'Angleterre, donc reine d'Écosse et d'Angleterre. Donc, on va aborder vraiment le point de vue historique de ça. Puis, on va parler aussi avec une professeure en littérature féministe qui va poser un regard, en fait, sur cette nouvelle réécriture de Marie-Stuart de Dacia Maréni, qui adopte un point de vue absolument féminin là, de ces deux grands mythes,
oui.
comparativement à ce que son prédécesseur Schiller avait fait dans l'œuvre originale du même titre. Mm-hmm. Donc, on va parler aussi de cet aspect-là de la littérature féministe à travers notre œuvre.
Bien, merci encore, Marie-Hélène, d'être venue nous rencontrer et on te souhaite maintenant bon succès dans tes futurs projets. Pour nos auditeurs, si vous êtes intéressés de connaître davantage quels sont les projets dans lesquels Marie-Hélène s'implique, on vous invite à aller suivre la page de la compagnie Les Écornifleuses ou bien celle des Nuages en pantalon. C'est donc ce qui conclut notre premier épisode de Insérer Théâtre ici. N'oubliez pas d'aller sur le site ftule.ca pour avoir accès gratuitement à tout le contenu du festival qui se déroule du 7 au 28 mai. On vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.
Cette émission a été élaborée, écrite et réalisée avec l'aide d'Emmanuel Maroulot-Masson, Véronique Marticotte, Rose Charrette et moi-même, Florence Bisson. Nous aimerions remercier Jean-François Lemieux au montage et Louis-David Gingras pour la musique.